Au bout de la plume, l'émission littéraire de Radio Alpes-Mancelles. Au bout de la plume, pour partager ensemble le plaisir d'écrire, la passion pour la lecture et faire partager vos talents d'écriture. Au bout de la plume, un rendez-vous hebdomadaire sur votre radio, à Radio Alpes-Mancelles 106.3 FM.
Aujourd'hui, nous allons parler de l'ouvrage Journal d'un café de campagne de Pierrick Bourgault. Pour cela, nous le recevons. Alors,
dans les bars, où parfois je m'absente, rencontrer quelques gloires d'une rue adjacente. Dans les bars, la nuit nous ensorcelle, mais la vie qu'on appelle est toujours autre part. Dans les bars, dans les bars, à midi, à minuit, il n'est jamais trop tard pour se faire un ami. Mais dans les bars, il y a des habitués qu'on pas envie d'aimer, ceux qui viennent au hasard dans leurs bars. Dans les bars, il y a les silencieux et puis les trop bavards, pas vraiment d'entre deux. Dans les bars, pour tous les amoureux, c'est le début d'un jeu ou la fin de l'histoire. Dans les bars, dans les bars, y a les années 50 qui éduquent au comptoir des jeunes sans attente. Dans les rades, peu importe le temps, ils se payent au comptant, rasade après rasade. Dans les bars, où parfois je m'invente mes petites histoires qu'un peu plus tard je chante. Dans un bar où personne n'écoute ni mes joies ni mes doutes ni mes coups de cafard. Dans un bar où personne n'écoute ni mes joies ni mes doutes ni mes coups de cafard. Dans les bars, dans les bars. Ni mes joies, ni mes doutes, ni mes coups de cafard. Dans les bars, dans les bars, dans les bars.
Pierrick Bourgault, bonjour.
Bonjour.
Pour commencer, présentez-vous.
Oh bah écoutez, que dire, je suis un amoureux des bistrots. J'aime bien écouter les gens, les photographier, les regarder, découvrir un univers par la petite porte en fait. Et la porte des bistrots est très pratique pour ça, puisque on peut y entrer sans réservation, sans être invité. C'est un petit théâtre de la vie, notamment le comptoir est un petit théâtre de la vie.
Alors sinon, vous êtes ingénieur agronome, qu'est-ce que ça signifie ?
Alors, c'est vrai que quand j'ai fait mes études, je m'intéressais beaucoup à l'agriculture, aux nourritures, et je m'intéresse toujours à tout ce que ça signifie. Et assez rapidement, après mes études, à 25 ans, j'ai fait du journalisme, parce que ça me semblait plus intéressant d'écouter les agriculteurs que de se retrouver à jeune ingénieur, à leur donner des conseils, sachant que donner des conseils à des personnes de 50 ans, quand on a la vingtaine, ça me semblait un peu présomptueux peut-être. Et puis j'ai commencé à les écouter, à les filmer, à les enregistrer, à faire des livres, des récits de vie. Et à chaque fois, je découvrais des choses que je n'imaginais pas. Et puis j'ai continué avec le monde viticole aussi, en croyant connaître le vin, et à chaque fois j'apprenais des choses nouvelles. Donc j'ai continué à écrire des récits, des témoignages et à travailler comme journaliste. Voilà.
Et photographe également, comment vous êtes mis à la photographie ?
Oh, très tôt. Mon père, qui était menuisier en Mayenne, avait un petit appareil photo, avec la pellicule, un appareil 6-7, je crois. Et il m'a appris très tôt à mettre l'appareil droit, de niveau. C'est pas très compliqué, il n'y avait pas beaucoup de réglages. Et bon, il faisait des photos de souvenirs, des photos de famille, des photos de lieux, de gens qu'il aimait bien. Puis j'ai continué, en fait, avec d'autres appareils, bien sûr, en numérique maintenant. Mais c'est un petit peu ma démarche. Souvent, je dis que je suis pas un photographe professionnel, mais plus un photographe amoureux, parce que je photographie ce que j'aime, quoi, les gens, les lieux, les univers. Je suis incapable de photographier, par exemple, un plat. Vous savez que la photographie de nourriture, c'est quelque chose de très, très particulier. En revanche, je photographie dans les bistrots. J'ai fait récemment un livre photographique qui s'appelle « Au bonheur des bistrots » chez La Martinière, qui est sorti en octobre dernier, avec beaucoup de lieux de l'ouest de la France, des gens surtout, des gens heureux. Enfin, c'est un livre un peu sur le bonheur.
Et vous êtes aussi auteur d'une cinquantaine de livres, mais déjà, comment vous vous êtes mis à l'écriture ?
Ah, l'écriture, c'est une longue histoire. J'ai commencé à écrire à l'école primaire, des rédactions, des petits journaux. Je faisais une sorte de petit journal des travaux. Il y a eu des travaux. Jeune enfant qui s'intéresse beaucoup aux pelleteuses, aux travaux, comment les chantiers s'organisent. Et moi aussi, à son âge, ça m'intéressait beaucoup. Donc, je l'écrivais, je dessinais, je peignais avec de la gouache, des petites scènes, des pelleteuses. Puis bon, l'écriture, c'est quelque chose qui permet de raconter, de transmettre, de raconter quelque chose qui vous plaît, qui vous émeut. Et voilà, j'ai toujours un peu écrit des histoires aussi.
Et justement, petit, aviez-vous déjà un attrait pour la littérature ?
Alors oui, grâce à la bibliothèque municipale de Mayenne, je suis né à Mayenne, qui était une bibliothèque à l'ancienne, qui avait un musée aussi à côté, avec un empilement, c'était un peu un cabinet de curiosité, des empilements d'oiseaux empaillés, de casques à pointe, de la guerre de 70, de fusils Lebel, de pièces romaines, d'un tas de choses. Alors le musée a été réinstallé, mais avec beaucoup moins d'objets, c'était l'époque où on entassait un peu dans les musées. Et il y avait une bibliothèque municipale, avec des bénévoles, c'était l'époque où, des échelles très hautes, et puis des livres assez anciens. Alors je lisais beaucoup, effectivement. Davantage que maintenant. C'est une découverte du monde. Le bistrot de mon grand-père, qui était à la maison voisine de mes parents, était la rencontre du monde intime du village, de Saint-Fambeau de Prière. Et puis, le reste du monde, je le découvrais à la bibliothèque municipale de Mayenne.
Et quel genre littéraire vous plaisait ?
Oh, de tout. J'aimais bien les évocations rurales, Genevois, Mauriac, un peu toutes ces histoires qui se passaient, Morin des Morts, Rabeaulieu, enfin vous voyez, toutes ces histoires qui se passaient à la campagne, parce que c'était mon univers, le monde des villes, le monde de Proust par exemple, était totalement étranger. Donc c'était plutôt effectivement des histoires qui se passaient à la campagne.
Et quel est l'auteur qui vous a inspiré ?
Oh, ben comme je vous disais, Maurice Genevoix, Alphonse Daudet aussi, vous savez, c'est des auteurs très très classiques, très scolaires, que j'ai beaucoup lus à une époque, ces histoires tendres de gens dont personne ne parle, de gens qui ne sont pas célèbres, mais qui ont une réflexion sur le monde. J'ai écrit un livre qui est le portrait de Francis Renard, le charron de Châtillon-sur-Colmont, c'est pas très loin d'Ambrières, les Vallées, et c'est un monsieur qui était connu dans son village, qui était charron, qui savait tout faire avec le bois, et puis après, quand c'était la fin des charrettes, dans les années 50, il s'est mis à faire des remorques, à faire des hangars, il était charpentier, il était très doué de ses mains, comme beaucoup d'artisans locaux, et j'ai passé beaucoup de temps avec lui, on a fait un livre, Francis l'artisan du bois, aux ateliers Henri Dougier, qui est un récit, un pur récit, c'est pas une fiction, je n'ai rien inventé. Et ça raconte la vie d'un village totalement autonome, et j'ai appris beaucoup de choses en l'écoutant, ce monsieur qui est né en 1923, qui aurait 100 ans maintenant.
Et alors, vous avez sorti un nouvel ouvrage, Journal d'un café de campagne. Déjà, oui. De quoi parle ce livre ?
Alors, c'est différent, c'est un roman. Donc, un roman, ce sont des personnages fictifs, quoique très inspirés de personnages réels, quoique très inspirés de personnages que j'ai rencontrés. Il y a des gens qui se reconnaîtront dans certaines phrases, parce que ce sont des bribes de réel, mais bon, dans un univers de fiction. C'est une histoire d'amour, en fait, entre deux personnes, un couple, de gens qui vivent à Paris, qui travaillent dans la communication, dans les nouvelles technologies. Et puis, ils se posent des questions. Voilà, c'est une vie trépidante qui manque un peu de sens, parce que bon, on répond à des appels d'offres, on fait des projets, ça marche pas, on gagne de l'argent, on est toujours sous pression. Puis il y a un peu un manque de sens aussi. Donc c'est un couple assez particulier, lui est français et elle taïwanaise, qui s'entendent bien. Et puis la tante de Yann, du garçon, décède en laissant un café de campagne, l'Hôtel de France, qui pourrait être assez proche, vous voyez, à peu près, j'ai situé ça à 1h30, 2h de Paris en train, c'est pas très loin, ce qui leur permet de partager un petit peu leur vie entre le café-restaurant et puis la vie parisienne, où Lynn continue à travailler. Et c'est aussi par amour pour un territoire, pour ses souvenirs d'enfance, ce lieu qui était un lieu de bons moments passés avec la tante, avec le cousin, plein de souvenirs d'enfance, mais assez rapidement, Yann se rend compte que c'est pas si simple, parce qu'ils se retrouvent un peu séparés, ils peuvent pas vivre à deux dans un café de campagne. Quand ils y sont tous les deux, les horaires demandés sont très importants. Vous voyez, il faut être tôt le matin, tard le soir, on n'est jamais seul chez soi, on n'est pas disponible pour aller chez des amis, pour aller au restaurant, pour aller à une fête, à un anniversaire. Donc c'est un mode de vie très particulier que vivent les patrons et les patronnes de café. Et ça, c'est important de préciser, c'est qu'on leur demande beaucoup, et ce livre est aussi un hommage à celles et ceux qui tiennent les cafés, comme mon précédent, comme au bonheur des bistrots. Ça demande une présence, une attention aux autres, un nombre d'heures considérable, en plus l'administratif, la communication. Si vous organisez un concert, il faut communiquer sur le concert, il faut appeler la radio, la presse locale, qui font très bien leur travail, mais ça prend du temps. Donc c'est pesant, vous voyez, c'est presque une vocation, vous voyez, c'est un sacerdoce, pourrait-on dire. Et j'admire les gens qui réussissent à le faire. Voilà, il y a beaucoup de dons de soi dans ce métier. On voit beaucoup de gens, mais on ne bouge pas, on reste sur place. Voilà, le village évolue et c'est pas simple, aussi bien pour la vie de couple que pour en vivre. Notamment, il y a des gens qui se font livrer à domicile, vous voyez, c'est un petit peu la mode maintenant, la tendance des livraisons. Donc ils concurrencent de façon très déloyale les cafés et les restaurants, puisque les employés sont très mal payés, sont considérés comme travailleurs indépendants. Donc voilà, je raconte tout ça en fait. Je raconte cette évolution, le rêve d'enfant confronté au monde moderne. Et ça peut se passer tout près de chez vous, voyez. Ça pourrait se passer à Flers, à Alençon, dans cette région. Voilà.
Et quels sont concrètement les thèmes abordés dans ce livre ?
Alors, le thème principal, c'est le désir de changement de vie des urbains, le désir de changement de vie pour quelque chose qui a davantage de sens. Il y a des sondages qui ont montré qu'un nombre considérable d'urbains se posent des questions, se disent, imaginez qu'on revende notre petit appartement à Paris, et puis qu'on achète une maison de campagne ou un commerce près de chez vous, dans le village où vous êtes, où est votre radio, et il y a une demande, on peut vraiment changer de vie, être plus utile qu'à faire des projets virtuels, donc le changement de vie. Et puis, la survie des cafés, parce que c'est un thème qui m'est très cher, l'univers des cafés, des bistrots et tous les services qu'ils rendent, la richesse de ce qu'ils font. On peut exposer, on peut faire des concerts, on peut démarrer, on peut faire des petites conférences, on peut faire plein de choses dans un café. C'est vraiment un lieu extraordinaire. Donc ça, je le raconte en fait. Le rôle social de ces petits lieux si précieux, le rôle dans la qualité de la vie. Sinon, un village, c'est un village dortoir. Vous voyez, c'est un lieu où on se retrouve. Mais comme je le disais, c'est difficile de tenir ce genre d'endroit. La transmission pose problème. Souvent, les cafés, restaurants, hôtels s'arrêtent parce que la personne veut prendre sa retraite, essaie de vendre, n'y arrive pas. Mais il y a des urbains qui s'y intéresse, donc dans quelle mesure ça peut être une réussite, quel peut être le café de demain, c'est un petit peu mon questionnement, vous voyez, le désir de changement de vie, et puis chez nous, à la campagne, qu'est-ce qu'un café apporte, qu'est-ce qu'elle peut apporter, comment ça peut exister.
Chacun. Les piliers, les nouveaux venus, toujours le sourire sur la main. La petite dame du PMU, c'est la seule qui me parle bien. Le monde entier me parle plus, elle me dit « Salut copain !» Elle me parle de son divorce, de son gosse, de ses chiens, avec ce ton un peu rosse qui prend la vie comme elle vient. Je lui parle pas de mes nuits blanches, je lui dis pas que les filles sont loin, je veux garder les coudées franches et du rire au fond de mon vin. C'est déjà dur le dimanche, je vais pas chialer comme un chien. Je rentre chez moi et là je m'épanche et je me dis vivement demain. Demain je poserai les mains sur le comptoir. Je lui dirai que ça va bien. Elle fera semblant d'y croire et me dira t'es beau ce matin. Moi je ferai semblant d'y croire et j'oublierai mon chagrin. La petite dame du PMU, elle a un mot pour chacun. Les piliers, les nouveaux venus, toujours le sourire sur la main. La petite dame du PMU, c'est la seule qui me parle bien. Le monde entier me parle plus, elle me dit « Salut copain !» Il y a du soleil dans mon café noir. Ses yeux à elle, ils sont pas miroirs. Je peux lui parler sans avoir peur, mais tôt ou tard, il sera l'heure. L'heure de passer la porte du PMU, me retrouver seul au coin de la rue. Elle est sur les verres, la caisse à recompter. Un petit coup de serpillière, puis les tables à faire briller. J'imagine son balai solitaire, entre les chaises des tabourets, ses bras nus, son jean serré, son corsage un peu ouvert. Moi j'aimerais tant pouvoir lui plaire et faire frémir ses yeux cernés, mais je suis nul à découvert, je sais pas quoi dire pour me faire aimer. dame du PMU. Elle a un mot pour chacun. Les piliers des nouveaux venus, toujours le sourire sur la main. La petite dame du PMU, c'est la seule qui me parle bien. Le monde entier me parle plus, elle me dit... Peut-être à demain.
Et sinon, d'où vous est venue l'inspiration de cette histoire ?
Oh, ça m'est venu d'énormément de conversations écoutées, de témoignages, de gens qui se lancent, vous voyez, qui ont envie de changer de vie, qui se disent, voilà, j'en ai assez de faire le transport quotidien, j'ai envie de créer quelque chose qui me ressemble, j'ai envie de créer une maison ouverte où j'accueillerai des artistes, un public, un petit peu une figure, avoir un lieu à soi, un lieu qui vous ressemble, vous décidez ce que vous cuisinez, la programmation musicale, des événements, des scènes ouvertes, comme font certains bars anglais open mic, voilà, donc tout le monde peut venir chanter une ou plusieurs chansons, c'est des jams, donc chacun vient jouer ensemble, et ça crée un lien social formidable, vous voyez, c'est être à l'origine de ce lien social. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent le faire, et dans quelles conditions ça peut exister? Ça peut être une réussite. Voilà, parfois ça ne réussit pas. Il y a aussi des cas de figure où les gens qui ont acheté en se disant je échange mon petit 20 mètres carrés à Paris contre un 200 mètres carrés dans votre région, puis on crée quelque chose, quoi. C'est le désir bien actuel de changer de vie.
Et comment s'est passée l'écriture de ce livre ?
Ah, j'ai pris beaucoup de notes. Vous savez, quand on écrit, on a des notes qu'on rassemble, et puis au fur et à mesure, on se documente, on essaie de contacter des gens qui ont vécu cette histoire pour leur dire quelles sont les difficultés, quelles sont les réussites, qu'est-ce qui a marché. Il y a des moments de solitude, puis des moments où il y a trop de monde, parce que tout le monde a envie de boire un verre, il faut servir à manger, il faut préparer, tout ça, il y a des coups de feu, c'est pas facile. Par exemple, au restaurant, tout le monde a l'impression de pouvoir cuisiner pour ses amis, c'est pas très compliqué, on prépare même pour 10 personnes. Au restaurant, il y a un professionnalisme à acquérir, c'est pas facile, par exemple, de servir les 5 personnes qui sont à table en même temps, voilà, que leur plat soit, les 5 plats différents, soient chauds et servis en même temps, vous voyez. C'est un métier, c'est gérer, anticiper... Gérer les stocks, avoir des produits frais, si possible, de région et de saison. C'est tout un métier. On peut savoir cuisiner, avoir vu Top Chef et puis être incapable de tenir un restaurant, bien sûr.
Et sinon, pourquoi justement lire ce livre ?
Ah, parce que c'est une histoire qui fait rêver. C'est un désir qui devient réalité pour ceux qui ont envie de changer de vie. Puis bon, c'est une chronique, un petit peu d'un village imaginaire, mais inspiré de la réalité. Vous voyez, il y a souvent des travaux dans les villages. On urbanise, on met des panneaux. Ça peut être assez laid. Il y a des commerces qui ferment, malheureusement. Il y a plein d'histoires. Il y a des retraités, il y a des jeunes avec des enfants qui ont leur vie de couple. Donc c'est une chronique de village vue par la personne qui s'y installe, qui n'est pas un étranger, puisque Yann a passé une partie de son enfance, des vacances, des belles heures de l'enfance dans ce village. Mais le village qu'il retrouve n'est pas tout à fait le même. Un petit peu comme ces retraités qui ont passé leur enfance dans un village, qui ont passé leur vie professionnelle loin et qui reviennent, et bien ils ne retrouvent pas les mêmes personnes. Voilà, ça a changé. Donc c'est une autre vie. Donc c'est le retour au pays, vous savez, qui est quelque chose de pas forcément facile, vous voyez. On ne retrouve pas forcément les rêves de son enfance.
Et où peut-on acquérir ce livre ?
Alors ce livre, eh bien, il est disponible, il y a les ventes en ligne bien sûr, mais je vous conseille la librairie du quartier, la librairie la plus proche de chez vous. Alors il y a un site internet qui est très bien fait pour ça, qui s'appelle placedeslibraires.fr. Alors la placedeslibraires.fr, ça vous donne toutes les librairies les plus proches de chez vous. Voilà, avec la disponibilité, en plus vous pouvez savoir s'il est disponible ou pas, vous pouvez savoir où le commander. Donc il est à 15 €, donc chez votre libraire il sera à 15 € et pas un centime de plus. Donc il y a la FNAC aussi. Sur monbar.net, j'ai mis les trois sites, place des libraires, librairie indépendante, et puis Fnac. Bon, la Fnac peut aussi le livrer. Donc, les libraires aussi font des livraisons, hein, bien sûr. On se conseille plutôt les libraires parce que c'est un petit commerce indépendant. On a un beau réseau de librairies en France. Il faut le faire vivre. Il faut qu'il puisse continuer à exister. Que tout ne soit pas vendu par correspondance avec des livreurs. Il y a beaucoup d'emballages, papier. On a une pénurie de papier en ce moment pour une raison assez insolite, à savoir que ceux qui fabriquent du papier se sont dit, bon, on passe au numérique, il y aura moins de demandes de papier, on réduit la fabrication de papier, et en même temps, livraison, c'est avec du carton, la vente à emporter, les gobelets en carton, etc., bah, c'est aussi du papier, et puis, les supermarchés utilisent des papiers pour remplacer les sacs en plastique, par exemple. Donc, en fait, on a une consommation plus importante de papier. Du papier un petit peu gâché parce que le papier des emballages que l'on jette, le papier des sacs que l'on jette, et puis c'est pas forcément facile à recycler. Ça donne un papier de moins bonne qualité quand il est recyclé. Alors c'est imprimé en France. Nos Racines Paysannes a également été imprimé en France. Au Bonheur des Bistrots est imprimé en Vendée. Je suis très fier de ça que mes éditeurs impriment localement. Mais le papier, effectivement, il faut qu'il soit disponible. Et on a eu quelques tensions sur la livraison de papier, notamment pour Au Bonheur des Bistrots. On a voulu le réimprimer très vite parce qu'il est parti avant les fêtes. Et puis bon, on a réussi quand même à avoir une nouvelle impression. Toujours à 25 euros le livre. Le journal de la Café de Campagne est à 15 euros. Et le petit dernier, c'est, on vous a peut-être parlé de Nos Racines Paysannes, qui était le témoignage de Louis et Lucienne Le Bourdet, originaire de Prével, pas très loin de la Ferté-Bernard. Donc il était réimprimé en livre de poche à 9,90 euros. Nos Racines Paysannes. Les caractères sont assez gros, donc c'est assez facile à lire. Ce qui n'est pas toujours le cas des livres de poche. Donc, le petit dernier, qui est un pur récit d'histoire locale. Louis est né en 1923 également. Il aurait eu 100 ans cette année. Il est décédé en juin dernier. Et Louis et Lucienne nous racontent la transition du cheval vers le pétrole. Ce qui évoque un petit peu mon roman, mais le roman, il est quand même très contemporain.
Alors sinon, quels sont vos projets ?
Alors mes projets, bah, c'est de présenter ces trois livres dans différentes dédicaces, dans différents lieux, que ce soit des centres Leclerc, des cafés, des librairies. Et toutes mes dates de dédicaces sont sur le site monbar.net. Je serai le 25 février de 14 à 18 heures au centre Leclerc de la Ferté-Bernard, en Sarthe. Et sinon, bah, je serai au Mans, à Saint-Berthevin près de Laval, dans différents endroits. Il y a toujours de nouvelles dates qui arrivent, donc je les indique sur monbar.net. C'est mon site qui résume un petit peu les actus, les publications. Alors voilà, ce sont mes projets en ce moment, c'est de faire connaître le témoignage de Louis et Lucienne, agriculteur à Prével, près de Bonnétable, et puis Au Bonheur des Bistrots, le livre photographique et là le roman, c'est ce couple qui reprend un café à la campagne.
Un mot pour la fin ?
Je dirais, ce que j'aime beaucoup, c'est aller écouter les gens, vous voyez. Je reprendrai une phrase de Louis Le Bourdet qui me disait, dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, il y a tellement d'histoires qui se perdent, tellement de gens qu'on n'écoute pas, tellement de gens qui ont des choses à dire. Et j'ai appris énormément avec eux. Avec Louis et Lucienne, c'était durant le confinement. Alors, on se voyait pas, évidemment. Ils étaient dans leur résidence au Mont. Alors, je les appelais très, très régulièrement. J'enregistrais nos conversations parce que c'était passionnant. Ils m'ont fait découvrir des univers, par exemple, notre région, dans les années 1930, qu'ils l'ont bien connu. Eh bien, il faisait très froid à l'hiver. Et les rivières gelaient, les mares gelaient. Ça arrive plus du tout maintenant. Voilà, on ne le voit plus. Donc, c'est bien une preuve du réchauffement climatique. Il y avait de la neige partout et les gens ne bougeaient pas. Ils restaient, en fait, confinés chez eux. Ils bricolaient, ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Ils ne pouvaient pas aller sur les routes, bien sûr, parce qu'on ne sait pas où est la route, on ne sait pas où est le fossé. Donc, ils restaient chez eux à nourrir les bêtes, à bricoler. Et c'était une sorte de confinement où on ne bougeait pas. Donc, c'est ce qu'ils me racontaient. Et ce confinement du Covid, je l'ai vécu avec Louis et Lucienne par téléphone. Et ils m'ont beaucoup aidé à passer ces heures difficiles. Et je les en remercie. Et ils m'ont fait voyager dans le temps, dans l'espace, dans leur univers. Enfin, les relations entre l'homme et l'animal, par exemple, qu'ils ont bien connues, puisqu'ils ont été agriculteurs. Ce sont des gens qui ont eu une voiture à 40 ans et un tracteur à 40 ans. Vous voyez, donc, ils ont bien connu le monde d'avant. Qu'il raconte dans Nos Racines Paysannes. Également aux éditions Ouest-France. Le journal d'un café de campagne et Nos Racines Paysannes sont publiés aux éditions Ouest-France, qui mettent en avant le terroir, la richesse locale. Donc voilà. Ce que je dirais comme mot de la fin, allez écouter les gens au bistrot par exemple. C'est drôle, c'est étonnant, c'est inattendu, c'est un bel endroit pour se changer les idées.
Alors Pierre-Yves Bourgault, je vous remercie. J'espère que nos éditeurs n'hésiteront pas à découvrir Merci. Votre univers avec notamment ce livre, Journal d'un café de campagne. Je vous dis au revoir.
Merci beaucoup.
Contre la pluie, contre le vent, on fuit, on s'échappe, on s'abrite, on se blottit sous un auvent, sous le plexi d'une baraque à frites. Tes yeux si beaux sont pleins de larmes, faut-il ma vie pourtant que je m'alarme? Je crois que oui, car tu me quittes, tu me l'avoues à la baraque à frites, tu me l'avoues à la baraque à frites. Dans les brumes et les graisses, on se fâche, on se blesse. Joue la passion dans l'odeur du graillon. Une grosse dame au teint huileux vient interrompre la tempête.
Faut commander là-bas, vous deux.
Elle souffle, elle grimace, elle râle, elle rouspète. Un américain fricandelle, je ne peux rien avaler, ce que t'es belle. Mon cœur s'emballe et je m'agrippe au vieux comptoir de la baraque à frites. Au vieux comptoir de la baraque à frites. Dans les brumes et les graisses, on se lâche, on se laisse. Aller à l'émotion dans l'odeur du graillon. Quelques clients sourirent en coin, nous jettent un œil à la sauvette. Ils ont compris nos jeux de main, nos yeux rougis par la fin de la fête. Ces regards sont insupportables, je ne dis mot mais c'est irrémédiable. Bientôt je les toise, ils m'imitent, et je me bagarre à la baraque à frites. Et je me bagarre à la baraque à frites. Dans les brumes et les graisses, on s'insulte, on s'abaisse. À secouer ses démons dans l'odeur du graillon. Les yeux, la bouche et le nez en compote. Je pisse le sang, je bave, je suffoque. La grosse dame me remplit un verre d'eau en m'affublant de quelques noms d'oiseaux. Et les gaillards, sans rancœur, emmènent au loin leurs âmes de boxeurs. Nous sommes seuls, il est minuit. Et tristement sur nous tombe la pluie. Nous sommes seuls, il est minuit. Et tristement sur nous tombe la pluie. Dans les brumes et les graisses, un sourire, une caresse font courir un frisson dans l'odeur du graillon.